Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous êtes en compagnie des surfeurs de l'art.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Vous retrouvez Divine.
Bonjour à nos auditeurs, bonjour Clément.
Ainsi que moi-même, votre humble serviteur. Toujours à l'antenne pour vous parler de l'actualité et de la culture. Dans le sommaire aujourd'hui, nous avons beaucoup à discuter sur le sujet de la culture. Que ça soit sur les associations culturelles, les métiers dans le domaine artistique, ou encore les aides pour la culture avec par exemple le SAMU social, avec les aides et le fonctionnement. Nous écouterons dans ce même temps la poésie réalisée par Adim, ainsi que les chroniques respectives de Derek, Yasmine et Louise, et ainsi que celles de Wafa, qui parleront respectivement des métiers méconnus de l'audiovisuel, des actions réalisées par le SAMU social, et nous terminerons tout ça avec la fiction sonore de Natalia.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Sur ce, nous retrouvons tout de suite l'histoire de Adine. Petit disclaimer pour nos auditeurs, sachez que cette histoire comporte des thèmes sur la violence faite aux femmes. Vous pouvez donc skipper à la prochaine. Adine, je te laisse la parole.
Merci. Une phrase, une histoire, un drame. Il est 16 heures et la professeure vient de lui demander d'écrire un récit long de 6 minutes en une phrase, en rapport avec le thème qu'elle développe dans son pécha-coucha, qu'ils viennent tous de regarder sur l'ordinateur portable de la prof. Elle se demande si la professeure a une petite idée de ce qu'elle vient indirectement de et inconsciemment de lui demander de raconter. Elle se demande surtout si elle a envie de suivre la consigne qui lui a été donnée. Elle regarde autour d'elle et remarque, non sans satisfaction, que ses camarades aussi n'y arriveront pas si facilement que ça. Et tout à coup, dans leur silence, le fou rire de la professeure détourne un instant son attention du souvenir imposant qu'elle se demande s'il faut qu'elle raconte, mais ce moment de distraction ne durera pas longtemps, car oui, la revoilà lancée dans son récit qu'elle n'a toujours pas réellement commencé à raconter. Oui, pour le moment, elle tourne autour du pot, ou du moins dans son cas, on dirait qu'elle tourne autour des lettres, des verbes, des mots, et des phrases qui se bousculent et se poussent au bout de sa langue. Non, plutôt au bout de son stylo noir à l'encre si pure et indélébile, aussi indélébile que ce souvenir, ce moment fatidique qui inspire tous, ou plutôt la plupart de ses écrits, depuis maintenant des années, 2 ans, ou plutôt 5, sinon 6, et là, elle réalise à quel point tout ça est arrivé il y a longtemps. Oui, bien longtemps. Oui, ça fait 6 ans que plus jamais elle ne verra une porte fermée comme anodin. Ça fait déjà si longtemps que certaines odeurs, notamment celle d'une haleine chargée de bière, ne sera plus jamais un simple fait d'ivresse pour elle. Pour elle, désormais, c'est un drame horrible. C'est un poison qui met en marche son système cérébrale, qui fait danser dramatiquement et honteusement des souvenirs qu'elle avait enfuis, enterrés sous 1000 couches de déni et de refus. Mais de quelle liberté parlait-elle dans ce poème? Elle se voile juste la face parce que son corps blessé et son âme emprisonnée dont elle parle sont visiblement encore sous le joug de ce jour ensoleillé où, dans une pièce au mur peint en bleu, éclairée d'une lampe, le soleil s'est laissé recouvrir de nuages pour laisser place à une pluie battante dehors et une pluie de larmes incessantes sur ses joues. Une pluie de coups, de douleurs, de souffrances dans tout son corps, dans tout son être, si fort que l'espace d'un moment, elle sentit son cœur ralentir. Plus aucun bruit, plus aucun mouvement, elle ne produisait. Elle attendit simplement que cet homme amical et aimant, qu'elle connaissait mais qu'elle ne reconnaissait plus à ce moment, ait fini de lui arracher toute sa joie, toute son innocence et sa foi en l'humanité pour enfin libérer son corps de son lourd poids. Car oui, il faut le reconnaître, c'était quelqu'un d'assez imposant, vraiment grand de taille comparé à son corps, tout petit et frêle en ce temps-là. Elle attendait qu'il finisse car en fait, à partir de ce moment-là, La seule liberté qu'elle ressentira à jamais, c'est celle de ne plus être emprisonnée sous son corps, sans pouvoir se défendre, car de se souvenir plus jamais, elle ne sera libre.
Nous venons d'écouter une histoire écrite par Adine. Tu as bien écrit ce texte dans le cadre d'un atelier écriture, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. On a fait un atelier d'écriture avec une prof qui nous apprenait à écrire différents types de textes, poèmes et tout. Et elle nous avait appris ce jour-là qu'une histoire, une seule phrase, peut représenter une longue histoire et un livre, parce que c'était inspiré d'un petit livret qu'elle nous avait fait écouter et tout. Donc c'était ça.
C'était ça, ok. Il y a un terme qui m'a interpellée, c'est le pécha coucha. Corrige-moi si je le dis mal. D'où vient ce terme?
Alors, le pécha coucha, c'est en japonais, ça signifie bavardage ou bruit de conversation, si vous voulez. Et ça a été créé par des japonais, du coup. Et ils l'ont fait pour éviter les architectes qui faisaient des diapos trop longs pour expliquer leur projet. C'était pour réduire le temps de parole. Du coup, un pécha coucha, c'est une diapo de 20 images. 20 slides de 20 secondes pendant laquelle tu présentes de manière dynamique ton projet. Et ça doit durer 6 minutes et 40 secondes. Du coup, après 6 minutes et 40 secondes, tu dois avoir fini de présenter ton projet.
Il faut être dans le timing.
Oui, exactement.
Et par rapport au thème, qu'est-ce que tu as voulu aborder en écrivant ce texte?
Alors, comme Clément l'a dit tout à l'heure, ce texte parle d'une des violences faites aux femmes, parce que je trouve que parfois on subit des violences ou on subit des choses dont on n'arrive pas forcément à parler. Et je trouve que l'écriture est un des meilleurs moyens pour libérer la parole et s'exprimer sur des événements qu'on a vécu soi-même ou que des proches ou des gens ont vécu autour de nous.
C'est important, genre, de s'exprimer des non-dits qu'on a pu vivre. Et d'où est venue cette inspiration d'écrire ce texte?
Alors, j'ai été inspirée par beaucoup plus l'histoire de plusieurs femmes que je connais qui m'entourent, parce que je me suis rendu compte que, mine de rien, beaucoup de femmes sont victimes d'agressions, que ce soit sexuelles ou simplement physiques ou verbales, et qu'elles n'en parlent pas forcément.
Ah oui. Et à la première lecture de ce poème, quand tu l'as lu à tes camarades, comment est-ce qu'elles se sont senties? C'était quoi leur émotion?
Alors, on n'était que 5 autour de la table ce jour-là, et pratiquement tout le monde a fondu en larmes parce que c'était beaucoup d'émotions. Il y a certaines qui sont restées en griffes silencieuses, disons jusqu'à la fin du cours et tout. Donc,
Ah ouais, c'était vraiment marquant alors ce moment. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la poésie en tant que forme d'art?
Alors, moi, je trouve que la poésie est l'une des plus belles formes d'art qui existent. Parce que à travers la poésie, de manière anonyme ou je sais pas anodine si vous voulez aussi, on peut raconter ou parler à un public. Parce que ça, par exemple, ce que je viens de lire, ça peut aider des femmes qui peut-être n'ont pas le courage de parler, de se rendre compte qu'elles vivent peut-être, ou de se rendre compte aussi de qu'elles vivent des agressions sans peut-être même le savoir. Et en même temps, des personnes qui sont agresseurs, de se rendre compte de ce qu'ils ont comme impact sur leurs victimes et tout. Voilà.
Ok. C'est très marquant ce que tu viens de dire, en tout cas. Et si tu aurais une manière de conclure cette histoire, comment est-ce que tu voudrais l'envisager?
Alors, pour conclure, j'avais écrit un poème que je pense qui fait très écho à ce que je viens de lire et qui résume bien la situation et donne une exhortation, en fait, à aller de l'avant, à guérir et à dépasser les événements passés.
Tu vas nous la partager?
Oui. Alors. Savez-vous cette prison, celle où un souvenir vous enferme? Ce souvenir, ce genre de souvenir auquel le temps ne change rien. Souvenir imprimé par un chagrin qui transpèce corps, âme et esprit. Celui-là qui brise en des morceaux indénombrables. Celui-là qui fait tourner en rond, celui-là qui fait commettre les mêmes erreurs en boucle. Savez-vous cette prison, celle où un être aimé vous enferme? Cet être aimé que le temps a fait devenir un ennemi, être qui a causé cette souffrance en vous, celle qui vous ébranle chaque fois que vous en avez souvenir, celle qui vous désespère de l'humanité, celle qui vous fait douter de l'existence même de l'amour. Savez-vous cette prison, celle de la jeunesse, celle de la vieillesse, celle qui traverse les temps, celle dont on ne sort qu'en évitant de s'échapper, celle dont on se libère en l'affrontant. Savez-vous cette prison? Il est temps de l'affronter, il est temps de se libérer. Non, ne vous sauvez pas. Libérez-vous, affrontez-la. Merci.
Vous venez d'écouter une histoire percutante, profonde et libératrice, écrite par Adine. Tout de suite avec nous allons aborder les questions artistiques avec Wafa.
Merci Adine, bonjour tout le monde.
Bonjour Wafa.
Là je vais prendre la place d'Adine et Clément. Je vais mener les surfeurs pour une discussion autour de leur expérience. On a avec nous bien sûr Clément, Adine, Divine. Et je vais commencer, si vous permettez, avec Thaïs, qui est dans une pratique artistique qui parle de drague. Moi, je connais rien de drague, je ne sais même pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Alors, avec mes amis, je suis dans un collectif de drague. Donc le drag, c'est quoi? Il y a plein de définitions du drag. C'est une pratique artistique qui est assez ancienne, qui consiste à se transformer. Donc la majorité des drags se transforment avec du maquillage, des vêtements, des coiffures, pour performer un genre. Donc ça veut dire exagérer la féminité, exagérer la masculinité. Mais c'est également possible de faire autre, d'être par exemple une créature, ou quelque chose de plus conceptuel. Par exemple, avec pas mal de mes amis, on fait plutôt du drag créature. Donc on va être habillé en être féerique, en poisson, des choses comme ça. Et c'est un art, donc le drag, c'est un art de scène, et on peut tout y faire, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui dansent, d'autres qui chantent. Il y a aussi des gens qui font des poèmes, de l'humour. C'est assez vaste.
Vous organisez des spectacles dans ce sens?
Oui, il y a souvent... souvent il faut connaître un petit peu certains artistes pour savoir quand est-ce qu'ils se jouent, mais il y a pas mal de bars, par exemple queer, qui proposent des spectacles de drag. Pourquoi queer? Parce que le drag, c'est un art qui est politique, et c'est un art queer, donc LGBT. Du coup, c'est un art qui veut remettre en question les problèmes de genre. C'est également un art qui a beaucoup en rapport avec l'antiracisme, puisqu'il y a beaucoup de personnes drag qui sont aussi des femmes racisées, beaucoup de femmes trans, qui ont été exclues de plein d'espaces et qui, du coup, ont créé leurs propres espaces. Donc on peut par exemple retrouver des spectacles drag dans les bars queer, mais aussi dans d'autres bars. Par exemple la Mutinerie. Par exemple, moi je connais une association de drag qui s'appelle Subalternative, qu'on peut retrouver sur Instagram. Il y a plein d'endroits où on peut en retrouver. Et avec mes amis, nous par exemple, on a participé le 17 janvier à une soirée pour la Palestine qui a été organisée par la MJC de Belleville, qui est dans le 20e à Paris, où il y a eu des ateliers, des stands pour avoir du soutien pour la Palestine, de la poésie, de la danse, des concerts. Et nous, du coup, on a fait des drag shows où on a dansé. Et moi, par exemple, j'ai chanté avec un ami à moi une chanson qui a été écrite par un autre ami sur la violence d'État, sur la répression, etc.
On peut avoir un petit morceau?
Alors, je ne me suis pas échauffée, mais je peux essayer de vous chanter
oui, juste
le
un
refrain.
Petit voilà.
Ok. Et dans l'ombre des murs, loin de leurs caméras, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Et dans l'ombre des murs, loin de leurs caméras, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Combien de leurs affronts accepterons-nous encore Combien de vies brisées par les mains arrachées par le sang de nos corps, nous devons pour notre avenir, celui de nos enfants, tous ensemble nous unir pour faire cesser la main qui nous bat jusqu'au sang. Et dans l'ombre des murs, loin de leurs caméras, les moutons noirs aussi préparaient ce moment depuis longtemps déjà. Et dans l'ombre des murs, loin de leurs caméras, réveillons la révolte qui dormait patiemment depuis longtemps déjà.
Oh, merci, c'était très très beau. Merci beaucoup. Voilà, les applaudissements de toute l'équipe.
C'est beaucoup mieux avec le ukulélé, j'ai chanté qu'une partie. Mais...
Alors, derrière les caméras, on a aussi avec nous Divine, qui va nous parler de toute son expérience dans le conservatoire, c'est ça?
C'est ça.
Oui, on vous écoute.
Alors, j'ai été inscrite au conservatoire, je ne me rappelle pas exactement j'avais quel âge, mais c'était durant mon enfance. Je crois que c'était peut-être au niveau de la primaire. Et j'ai joué d'un instrument, c'était la guitare, donc la guitare classique, la guitare à six cordes, voilà. Mmh. Et c'était aussi accompagné de solfège, et c'était pas facile le solfège.
C'était vraiment maths, difficile. Hein. Pour moi, c'était maths.
Vraiment, c'était compliqué, mais c'était obligé de passer par cette case-là.
Ouais. Donc, mais c'est enrichissant quand
c'est
même.
C'est très enrichissant, oui. Mais quand on est seul, on est jeune, c'est pas facile de rester accroché. Mais sinon, c'était une très belle expérience.
Et vous souhaitez recommencer, continuer ou...
Ah, j'ai toujours ma guitare à la maison.
Bah, c'est bien, c'est déjà ça.
Au niveau du temps d'activité, parfois on est pris par différentes activités. Donc c'est compliqué de pouvoir se remettre dans le bateau et de pouvoir rejouer de temps en temps.
Bah, on vous souhaite bonne chance. Et voilà.
Merci.
Bah, on va basculer un petit peu vers le théâtre. Et le théâtre, moi je dis que c'est le top de tous les arts, parce qu'il y a tout, il y a la musique, il y a le stylisme. On va parler aussi avec Adine tout à l'heure. Donc il y a de la musique aussi, il y a du tout dans le théâtre. Clément, tu nous parles de ton expérience s'il te plaît.
Eh bien, moi de base, faut savoir que du coup actuellement, moi je suis en licence théâtre justement, donc je pense être assez bien placé pour pouvoir en parler. Le théâtre en lui-même, c'est assez pratique parce que, par exemple, avec si on prend actuellement l'actualité, avec la naissance de l'IA, beaucoup de domaines artistiques sont menacés. Ce qui fait que, par exemple, tout ce qui est comédien de doublage, tout ce qui est domaine artistique, on va dire, où tu n'es pas présentiel, c'est dangereux. En tout cas, ça peut partir là où le théâtre, c'est forcément du performatif, un peu comme la drague, justement. Où du coup, on est vraiment sur scène, on fait notre jeu, on est là pour incarner un personnage et pour faire vibrer le public, tout simplement. Et c'est toujours quelque chose d'assez intéressant de pouvoir aller dans un personnage et de pouvoir se lâcher sur des choses qu'on ne ferait pas forcément d'habitude. Dans le théâtre aussi, bah, en fait, ça ressemble un peu à la drague, même ça ressemble beaucoup à la drague, puisque c'est une performance théâtrale. Donc, on va avoir aussi du chant, on va avoir de la danse aussi. On peut avoir aussi on a aussi beaucoup d'exagération forcément sur nos traits, sur nos mimiques, sur
c'est-à-dire j'ai pas compris d'exagération.
Comme on est sur scène et que ça dépend quel style théâtral on joue, on va avoir des personnages, on va dire stéréotypés, qui sont là pour incarner quelque chose. Par exemple, on a les personnages cartoonesques qui vont avoir des voix différentes, qui vont exagérer leurs traits, etc. Voilà, tout un pan de l'histoire théâtrale qui peut être abordé, que je n'aborderai pas ici, tout simplement, parce que je n'ai pas le temps.
Malheureusement, même si c'est vraiment très enrichissant. On va parler de tout ce qui est stylisme et modélisme qui va, bien sûr, avec le théâtre, autant.
Pour moi, le stylisme, c'est une forme d'art. Je pense que parfois, les gens confondent souvent avec l'artisanat. Il y a certaines personnes qui pensent que non, on a trop de stylistes. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils font tout le temps la même chose et tout. Mais moi, je pense que non. Le stylisme, c'est vraiment une forme d'art parce que pour avoir pratiqué le stylisme, le modélisme et tout, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas des clientes qui soient venues chez moi pour qui j'ai fait exactement la même tenue que pour une autre.
Oui,
chaque
c'est vrai.
Chaque cliente qui arrive, exactement, chaque client qui arrive, c'est une histoire différente, c'est une création différente, c'est une tenue différente, même si les modèles ont l'air de se ressembler, mais jamais être pareil.
Mais c'est toujours, c'est de l'art et c'est de la création.
Exactement.
On aurait aimé parler de tout ça encore plus, aussi du théâtre. Malheureusement, le temps ne nous permet pas. Je vous remercie pour cette discussion, c'était vraiment enrichissant. La parole est à toi, Clément.
Bah écoute, que d'anecdotes sur les domaines artistiques, en tout cas, qu'on a tous donné. Et vraiment merci pour le spectacle oratoire que vous nous avez donné. Maintenant, on va écouter Et Moncled sur Radio Campus Paris.
ميدسنا غروس صبحي تسب ويكزد واتغريض خرق كستيرين تنوي دول سلن الخبر ثبت أسدور الغثام الديت نظر فيك زي ونيض اسمي اشتباني جمعت ثم صغيتي جرة ظلام تغلغني بجولي واس تجغلي يسدف في ريك تعاو تعين في حلال في سمياتك لا يسيك عيني ليك
d'émotion cette musique de Ed Manclet. Vous pouvez retrouver cet article sur toutes les plateformes de streaming. Tout de suite, la chronique qui parle justement de cet article. Yasmina, Louise, c'est à vous.
Merci Clément. Alors, aujourd'hui, Louise, on part en Kabylie, dans le paysage musical algérien. Rares sont les artistes qui traversent les générations avec autant de constance et de profondeur que Louise Saïd Manglet. Né en Kabylie, il n'est pas seulement chanteur, il est poète, philosophe populaire et gardien d'une mémoire collective.
Ah oui, tout ça.
Ah oui, oui. Depuis ses 17 ans, il est devenu comme une référence incontournable de la culture amazigh. Au cours de sa carrière, il a écrit 200 poèmes. Personnellement, je me souviens de l'écouter le matin sur le chemin de l'école dans la voiture à mon père. D'ailleurs, avant, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Et surtout, je me plaignais de la longueur de ses chansons, quand même 6 minutes. Voilà,
ah oui,
de.
C'est bon.
Oui, oui, oui. Mais en grandissant, j'ai appris à bien écouter et à comprendre les grands messages derrière ces mots. Une des chansons qui m'a le plus marquée est celle qu'on vient d'écouter, Imene Girl, et d'autres comme Meganim, celle qui me rappelle une personne très très chère à moi, et aussi Ogier. Toutes ces chansons parlent de tourner la page et d'aller de l'avant et laisser faire surtout le temps.
Et de quoi parlent ces chansons, Yasmina? Quels sont les messages qui sont portés? Qu'est-ce qui revient souvent?
Alors, en fait, il interroge le pouvoir, la liberté, la dignité, l'exil, l'amour et la transmission. Contrairement à une chanson simplement divertissante, l'œuvre d'Ed Manglet invite à réfléchir. Ces chansons, souvent construites comme des véritables récits poétiques, mêlant sagesse ancestrale et constante questionnement moderne, et s'adresse autant au cœur qu'à la conscience. Chez lui, chaque mot semble peser, chaque silence semble parler, comme on dit.
Et est-ce que tu as une phrase un petit peu qui ressort, une de tes chansons, je ne sais pas, préférée?
Alors, si je pense bien, ça vous dirait de la dire directement en kabyle. Après, je fais la traduction.
Allez-y, allez-y.
Menrlin Shehanker. Ça veut dire même si que on va tomber, on va essayer, on va tomber, on va se blesser, c'est pas à vous de nous dire qu'est-ce qu'on va faire ou de décider de notre fin, trajectoire. C'est à nous de la prendre en main et et aller de l'avant surtout.
J'imagine que c'est une personne un peu engagée aussi par ce texte.
Ah oui, oui, dès les années 1970, sa voix singulière et ses textes ciselés s'imposent comme un écho aux préoccupations sociales, identitaires et humaines de son peuple en Algérie. Son engagement pour la langue et l'identité kabyle n'est jamais tapageur, mais profondément enraciné dans son art. Par sa constance et son intégrité, il incarne une forme résistance douce, celle qui passe par la culture et la parole. Léoné Saïd Manglet n'est pas seulement un artiste, il est une mémoire vivante. Et sa voix continuera de porter ses textes, une partie de l'histoire et de l'âme kabyle continuera de vibrer. J'espère en tout cas.
Il est en tournée mondiale un peu encore. J'ai vu qu'il était passé à Paris en novembre.
C'est vrai, il était à Paris justement en novembre dernier pour un concert au Bataclan. Dommage, j'ai pas eu j'ai pas eu à temps les tickets, donc c'était sold out. Alors là, dans le cadre de sa tournée mondiale, justement, il passera son mois d'avril aux USA. Il sera à Chicago, Philadelphia et San Francisco. Et voilà.
Merci.
Merci à Yasmina et Louise de nous avoir fait découvrir plus sur Aït Mengele. À présent, je me tourne vers Wafa qui va nous parler des associations. Je te laisse la parole.
Alors, rebonjour les surfeurs. Tout à l'heure, on avait discuté un petit peu des expériences des surfeurs par rapport à tout ce qui est culture. Là, on va parler, si vous voulez bien, des expériences que vous avez eues avec des associations qui souhaitent, c'est-à-dire qui aident les gens à s'intégrer dans la vie, dans la société, par l'art. Donc, on va commencer avec Natalia, qui va nous parler de son expérience dans le théâtre, dans l'intégration aussi, par la culture. On t'écoute, Natalia.
Bonjour.
Bonjour.
L'année avant-dernière, j'ai participé à l'atelier Joël Epistolaire, qui a été pour moi une expérience très particulière et personnelle. Grâce à mon ami Marie, qui a créé son propre asso, qui s'appelle Lettres sur scène et qui collaborait avec l'AK Paris 8, j'ai pu découvrir une manière différente d'aborder le théâtre, plus intime et plus sensible. Pendant cet atelier, nous avons travaillé autour des lettres d'Albert Camus et Maria Cáceres, ainsi que de celles de Frida Kahlo. Lire ces correspondances, entrer dans ces mots écrits pour quelqu'un d'autre, m'a fait réfléchir à la frontière entre l'intimité, entre l'intime et le public. Sur scène, nous avons essayé de traduire cette sensation étrange, celle d'être à la fois témoin, lecture et parfois presque intégré dans une histoire personnelle. Ce projet m'a permis d'explorer non seulement les jeux théâtrales, mais aussi la manière dont des textes très personnels peuvent devenir une expérience partagée avec le public. Moi, on a créé un espace très libre et bienveillant où chaque pouvait chercher, expérimenter et proposer des idées. Pour moi, cette expérience restera un moment important. Une rencontre entre le théâtre, la littérature et des émotions très humaines. Cela me donnait une excellente opportunité d'améliorer mon français, de mieux m'intégrer dans la société française et de me rapprocher de la culture française.
Oh, bravo. Bravo, bravo, Nathalie. Et vraiment, c'est une expérience très enrichissante. On va voir aussi l'expérience de Louise.
Mm-hmm, bonjour.
On t'écoute, Louise, bonjour.
Alors moi, je suis là pour vous parler de l'UNICEF à Paris 8. Donc, c'est une association qui était présente sur le campus pendant plusieurs années, qui a notamment participé au festival du Grand 8, donc qui est annuel et qui permet à toutes les associations de Paris 8 de se rencontrer et de recruter de nouveaux bénévoles. C'était une association qui réunissait tout de même presque 500 abonnés sur son compte Instagram. Donc on avait une certaine visibilité. Mais ces deux dernières années, l'association a tout simplement un peu disparu des radars de la faculté. Alors notre projet actuel à l'UNICEF dans le département du 93 et depuis septembre 2025, c'est de relancer cette antenne. On était présents donc au Grand 8, on a organisé une collecte de dons début février et il y a une course caritative inter-antenne étudiante à Paris qui est en train de se préparer, de s'organiser d'ici avril. Donc l'idée c'est à nouveau à la fois de faire des actions, de récolter des dons, mais c'est aussi de toucher un maximum de public étudiant pour qu'ils puissent nous rejoindre, par exemple, afin de mener des actions, notamment à Paris 8, où, du coup, comme je vous le disais, on a perdu un petit peu de public et d'activité. D'autant plus qu'à la fin, on n'avait vraiment aucune idée de qui avait les mots de passe des comptes Instagram, qui étaient les anciens présidents. On avait totalement perdu le fil. Donc, on est un peu en train de reconstruire tout ça et on repart un peu de zéro. Donc, voilà, c'est aussi un petit peu un message pour...
faire passer s'il y a des étudiants de Paris 8 qui nous entendent, qui sont intéressés par les thématiques de l'UNICEF, donc qui, je le rappelle, c'est une branche de l'ONU qui est dédiée à l'enfance dans le monde, donc l'enfance dans les conflits, l'enfance dans les zones touchées par les catastrophes, que ce soit guerre, catastrophes naturelles, Et ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, malheureusement, on a les budgets de l'ONU et de l'UNICEF qui sont réduits, alors que d'un autre côté, ces mêmes personnes qui réduisent le budget bombardent des zones et créent des enfants sans difficulté, créent des migrations, créent tout un tas de soucis et de problèmes. Donc,
Intéressant. On aimerait aussi y participer. Si jamais il y a une adresse, une info, n'hésitez pas. Hein.
Oui, bien sûr. Je peux faire face ici le compte Instagram de l'UNICEF qui peut être un premier point de contact pour ensuite être amené, guidé. Donc le compte Instagram c'est 8, donc le chiffre, UNICEF, tout en minuscule, Paris. C'est 8, UNICEF, Paris, tout collé, pas de point, pas de tiret, tout en minuscule.
Le message est passé, merci beaucoup.
Merci.
Alors, à part tout ce qui est chanson kabyle, qu'est-ce que tu peux nous dire des expériences d'association?
Je vous parlerai de celle que j'ai déjà eu de rencontrer les membres personnellement. Mm-hmm. Ça s'appelle l'UEAF, c'est l'association pour l'intégration des étudiants sans papier. Mm-hmm. Elle est à Paris 8, en collaboration avec la maison des étudiants. Il organise des concerts, des ateliers de poésie et de lecture afin de favoriser l'intégration des étudiants, car justement ça leur permet de bien pratiquer la langue et surtout être à l'aise à pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils veulent, quoi.
Leurs problèmes, quoi.
Oui, exactement. Mm-hmm. Voilà. Et ils sont assez présents, ces membres-là, ils sont assez présents dans les vies quotidiennes de ces préoccupants. Mm-hmm. À l'écoute, sont toujours à l'écoute pour tout et n'importe quoi. Donc, ils organisent d'ailleurs des concerts en invitant plusieurs artistes de toutes les nationalités, d'Afrique ou d'Asie, de toutes les nationalités.
Et surtout pour les étudiants qui sont sans papier, c'est ça?
Exactement, surtout ça. C'est ça le but déjà de la création de cette association. Mmh. Et justement avec une collaboration avec des vidéastes Allegory Motion, qui sont peut-être là, qui sont à l'écoute, on leur dit bonjour. Ils ont fait d'ailleurs il y a 2 mois de cela un concert en plein air à Paris 8 et c'était vraiment génial, il y avait tout le monde, on voyait vraiment toute l'intégration, toutes les...
Et c'est énorme vraiment ce qu'ils font pour les étudiants. Sans papier, c'est parce que c'est pas facile, c'est pas évident de vivre cette situation. Alors on a oublié tout à l'heure, ou peut-être c'est Thaïs qui a oublié, ou elle ne veut pas nous inviter. Mais voilà, donc c'est moi je vous invite au festival Aurillac du 19 au 22 août 2026. Ça sera fait par les étranges et bestioles et sur le thème l'accueil. Donc sur Instagram, c'est @étrange-8bestioles si jamais ça vous intéresse. Merci à vous, l'antenne, Clément.
Eh bien, tout le monde, on peut dire en tout cas que vous avez tous charbonné au niveau des associations culturelles. C'est le moins qu'on puisse dire. Justement, en parlant de culture, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir Angélique Kidjo. Bonne écoute à tous. Wambalamba, 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 wambalamba,
Wambalamba,
J'espère que vous avez pu vous évader avec ce son d'Angélique Kidjo, en tout cas. Nous poursuivons avec une discussion très importante sur les métiers souvent oubliés et pourtant essentiels dans la production du cinéma avec Derek. Je te laisse la parole.
Allez, bonjour Clément, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier du cinéma qui est un peu caché. Un métier discret mais absolument indispensable, celui de script.
C'est quoi le script à peu près ?
Imagine dans cette scène, on me voit avec des cheveux mouillés et dans le plan suivant, ils sont très secs. Faux raccord, logique, hein ? Le script, c'est celle qui gère la continuité, la cohérence visuelle et sonore du film. Elle note tout, absolument tout. Qui tient le verre dans la main droite ? Combien de boutons sont ouverts dans la chemise ? Le comédien s'assoit avant ou après la réplique ? Elle écrit, elle observe, elle compare.
Mais le réalisateur, c'est pas lui qui s'en charge de base ?
Ah, il sait d'expliquer à Tarantino qu'il a un faux raccord dans une scène de 5 minutes tournée en plan séquence. Il va t'envoyer balader, mais avec une script, elle aurait déjà tout anticipé. Parce que oui, elle est juste assise avec son casque à l'oreille, son scénario écrit dans un carnet comme une détective privée. On l'entend souvent dire « Excusez-moi, la prise de le verre était à la main droite au lieu de la main gauche. » Tout le monde reste figé et se tourne vers elle parce qu'elle a raison. Pour ne pas dire, elle a toujours raison. Mais attention, son rôle ne s'arrête pas uniquement au faux raccord. Elle est aussi le lien entre le tournage et le montage. Elle rédige des rapports précis pour que le monteur sache quelle prise était la meilleure. Sans elle, le montage serait un puzzle sans image de référence.
Mon Dieu, la pression qu'elle doit avoir.
Ah oui. Et oui, là, ce côté psychologique. La script doit être diplomate, très diplomate. Dire à un acteur reconnu qu'il a inversé une réplique avec douceur. Rappeler à un réalisateur débordé qu'il manque un plan. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand vous regardez un film, posez-vous la question. Qui veille à ce que la magie reste cohérente? Qui empêche les verres de se remplir et de se vider mystérieusement d'un plan à l'autre? Ce n'est pas un super-héros. Enfin, pas officiellement. C'est la script. La mémoire du plateau. L'ange gardien de la continuité. Et sans elle, le cinéma serait un peu moins magique. Alors, la prochaine fois que vous entendez couper, pensez à elle. Elle n'a jamais coupé son attention. Merci, à la prochaine.
Merci à toi. Wow.
Avec toutes ces informations, nous sommes maintenant incollables sur le métier de script. Merci Derek. Tout de suite, nous retrouvons la chronique de Wafa, qui va nous parler des pièces réalisées grâce à l'aide du SAMU social.
Rebonjour. Alors, les surfeurs, depuis tout à l'heure, on n'a pas cessé de parler culture et comme moyen d'intégration. Justement, certaines associations s'engagent concrètement pour créer ce lien entre les personnes. À Paris, plusieurs initiatives montrent que l'art et la musique peuvent devenir de véritables outils de partage et d'intégration. Alors la question qui se pose là, qu'est-ce que la culture peut apporter à des familles qui ont dû quitter leur pays ou parfois même leur logement ?
Je suppose que tu vas nous le dire.
C'est notamment le travail du SAMU de Paris, SAMU social de Paris, qui accompagne des personnes en situation de grande précarité, en particulier celles qui se trouvent sans logement. Son objectif est d'abord de répondre à l'urgence, mais aussi d'accompagner ces personnes vers des solutions très stables et de les soutenir dans leur parcours de vie. Et dans cet accompagnement, un aspect peut sembler un peu inattendu, mais il joue un rôle très très important. Nous parlons ici de la culture.
Ok.
Concrètement, différentes sorties culturelles sont organisées pour les personnes et les familles accompagnées. Là, on va dire que le SAMU social ne s'occupe pas seulement d'hébergement. On est bien d'accord. Donc, il peut s'agir de visites de musées, de sorties, au théâtre ou encore de concerts dans des salles de spectacle. Ils peuvent venir te voir aussi. Hein.
Bah, je pense que ce qui est bien avec ça aussi, ouais. Du coup, je pense, par logique, donc, voilà. Ça va être que bah, ça peut, si c'est des enfants, ça peut leur faire venir des passions.
Ah, c'est des familles, hein, en général, c'est des familles. Avec des enfants. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est permettre un accès à la culture pour tous. Car pour beaucoup de ces personnes-là, qui sont en situation de précarité, ces activités restent difficiles d'accès. Que ce soit pour des raisons financières, sociales, ou simplement parce qu'elles ne connaissent pas ces lieux. Donc, des sorties permettent donc de découvrir ces espaces, mais aussi de vivre des expériences nouvelles et enrichissantes. Mais ce n'est pas seulement culturel. Ces moments ont aussi une dimension sociale, hein. C'est très important, hein. Et c'est très fort. Ils permettent aux familles hébergées de se rencontrer, d'échanger et de partager un moment ensemble. Donc la culture devient alors un véritable vecteur de lien social. Elle permet de créer des moments de convivialité, de renforcer la confiance en soi et de favoriser l'intégration dans la société. Donc c'est énorme ce qu'ils font là. Et parfois ces initiatives vont encore plus loin en permettant aux personnes accompagnées de participer directement à des projets artistiques. Là on va parler de ce que vous avez dit tout à l'heure. Au début, c'est par exemple le cas du projet « Où irais-tu ?». C'est une comédie musicale réalisée en partenariat avec l'association Aurore et la Philharmonie de Paris.
Oh, oui, ah
ouais. Ouais, c'est très intéressant. Il s'agit d'un spectacle, d'un spectacle accessible dès l'âge de 7 ans et présenté au studio de la Philharmonie pour une durée d'environ une heure. Le projet réunit plusieurs artistes et musiciens, notamment les solistes de l'ensemble intercontemporain, ainsi que des chanteuses comme Marie Picot et Tamara Bounazou. Pour ne
citer
que ceux-là. Il y a plusieurs, il y a les metteurs en scène qui sont très connus, les sopranos, mais on va juste citer ceux-là. Mais ce qui rend ce projet plus particulièrement plus fort, c'est la participation des familles accompagnées par l'association Aurore. Et le SAMI social de Paris. Certains de ces familles, il faut le signaler, ont dû quitter leur pays et reconstruire leur vie ailleurs, notamment à Paris. À travers ce spectacle, elles partagent leurs expériences, leurs émotions et leur parcours en utilisant la musique et la création artistique comme moyen d'expression. Donc la comédie musicale devient un véritable espace de parole
et d'échappatoire.
Et de partage aussi. Et qui permet de raconter ses histoires de vie et de sensibiliser le public à ses réalités. Donc, à la fin, pour sensibiliser les gens, si vous souhaitez découvrir ce projet, on vous donne rendez-vous le 30 mai à 19h à la Philharmonie de Paris. Et venez nombreux, s'il vous plaît. Merci.
Et ben, grâce à ça, on saura en tout cas que le SAMU sociable a de multiples facettes. Merci beaucoup, Wafa. Pour finir, nous écouterons Corps Vocab de Zor. Il s'agit d'un artiste pluridisciplinaire qui transforme et questionne le monde, suivi d'une fiction sonore préparée aux petits oignons par Natalia. Bonne écoute sur Radio Campus Paris. Quelle magnifique musique de Zor qui nous a transportés. Si vous êtes intéressé par son travail, vous pouvez le retrouver sur SoundCloud et sur Instagram. Je vous mets le petit arrobase Z0R-GSM, tout en majuscule. En tout cas, j'espère que, Natalia, tu nous transporteras autant que cette musique. Je te laisse la parole.
Oui, R-Voix est une création sonore courte, composée à partir de la respiration, du murmure et du mouvement. J'explore la voix comme un corps sonore, censé pour l'écoute radiophonique. Je parle parce que la langue me porte. Je ne dis pas pour expliquer, je dis pour que la langue devienne chère. Les mots ne sont pas des idées. Ils sont des corps qui bougent, tremblent et puis disent. Ici, la voix n'est pas un outil. Il est l'espace où la parole arrive et repart. Je ne cherche pas une phrase complète. Je cherche seulement que chaque souffle devienne lumière. Ici, le langage se dérobe. Alors, nous marchons avec les mots. Ensemble. Vers un endroit où rien n'est encore dit.
Merci à Natalia pour cette merveilleuse fiction qui nous a vraiment fait voyager. C'est déjà la fin de notre émission. Nous avons vu ensemble les richesses artistiques, les pratiques artistiques, de la profondeur des mots, du métier de l'ombre, de script, du cinéma. Et nous avons conclu avec cette fiction sonore pleine de vie. L'univers artistique regorge de découvertes et d'acteurs qui veillent à sa production. Terminons avec cette merveilleuse citation de Bertolt Brecht. Tous les arts contribuent au plus grand de tous les arts, l'art de vivre. Merci à tous nos chroniqueurs qui étaient présents avec nous. Merci à nos deux régisseurs, Derek et Louise. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure. Vous avez écouté votre radio préférée sur Radio Campus Paris.